La Rochelle à votre service. Chloé Bidet.
Et Jules Magnot.
Anne de l'Agneau.
Ça se passe bien rosé l'agneau. Trop cuit, c'est foutu.
C'est du hors-saut, c'est notre collègue, c'est sûr et certain.
Je me disais, mais quel est cet habillage? Voilà. Lundi de Pâques, Anne de l'Agneau, bonjour.
C'est de l'agneau en fait.
C'est du Anne de l'Agneau.
J'aime pas rire.
On valide quand même.
Vous n'aimez pas rire de cette blague. C'était inattendu en tout cas. France Bleu La Rochelle est à votre service tous les matins entre 9h et 10h. On s'intéresse à des sujets de notre quotidien. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme qui aura lieu demain, en ce 2 avril, eh bien, nous allons aborder ce sujet. On ne connaît pas toujours très bien l'autisme et ses différentes formes. Quelles sont les solutions également qui existent pour l'accompagner au quotidien? Est-ce que vous en souffrez ou quelqu'un dans votre entourage? À quel âge est-ce que ça a été décelé aussi? Ça peut être parfois décelé et détecté, diagnostiqué sur le tard. Comment c'est accompagné au quotidien? 05 46 50 67 68 pour participer à cette émission.
Et pour en parler ce matin, nous sommes aux côtés de Sylvana Valvé-Calbé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sophrologue, merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu La Rochelle. Nous sommes aussi aux côtés de Fanny Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Vous êtes neuropsychologue et vous êtes spécialisée justement dans les troubles du spectre de l'autisme. Cette journée de sensibilisation, donc ça sera demain, vous l'avez dit, Chloé, avec un symbole. En fait, c'est la couleur bleue qui pourra être portée pour marquer justement notre soutien aux personnes autistes ou à leur famille. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous cette journée, Sylvana? En plus, vous êtes parent d'un enfant autiste sévère qui présente aussi d'autres handicaps qui sont invisibles.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une journée importante déjà pour sensibiliser le public et puis aussi pour démystifier un petit peu ce trouble-là. Et puis lancer un petit peu aussi une alerte sur les besoins qu'ont les familles en France, parce qu'on a un énorme retard sur plusieurs plans. Donc c'est une journée qui est importante.
Qui est importante aussi pour vous, ça permet de sensibiliser le public, peut-être aussi de répondre aux questions qu'on peut se poser, que les citoyens peuvent se poser au sujet de ce handicap. Vous, c'est quelque chose aussi dont vous avez peut-être envie de parler?
Oui.
Avec... Quoi, par exemple, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
Eh bien, on pourrait parler... Je vais plutôt laisser Fanny...
Fanny, allez-y. Fanny, vous, dans votre quotidien, alors en tant que, justement, neuropsychologue, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui, en 2024?
Moi, je pourrais dire aujourd'hui que on parle maintenant quand même du trouble du spectre autistique. Donc peut-être mettre le focus sur le spectre et dire qu'effectivement ça peut prendre vraiment différentes formes et que malheureusement encore aujourd'hui il y a pas mal d'idées reçues sur ce trouble et du coup si on a l'occasion de trier le vrai du faux.
Ça pourrait être l'occasion d'en parler ce matin. Comment l'autisme se manifeste au quotidien? Il y a plein de formes aussi, c'est ce que vous voyez dans votre cabinet?
Ouais, tout à fait. Donc on va vraiment se baser sur trois grosses caractéristiques. Donc la première, c'est quand même tous les aspects sensoriels. C'est vraiment des personnes qui au quotidien vont être énormément parasitées par ça. C'est-à-dire c'est comme si le filtre ne fonctionnait pas. Donc il y a par exemple de petits bruits qui peuvent paraître extrêmement intenses, et ça effectivement au quotidien ça peut avoir son incidence donc sur l'attention, la disponibilité. Et puis après donc il y a des difficultés au niveau de la communication, des interactions. C'est pas une impossibilité, et ça c'est important de le dire. C'est pas forcément des personnes qui sont H24 on va dire dans leur bulle.
Oui, ça fait partie des idées reçues aussi dont on va parler, des clichés qu'on va développer dans quelques instants ce matin sur France Bleu La Rochelle.
Il est 9h11 et on va parler donc ce matin de cette sensibilisation autour du trouble du spectre de l'autisme et puis de peut-être des questions aussi que vous avez à ce sujet. Vous pouvez venir poser vos questions, apporter votre témoignage, votre parcours si vous avez des personnes atteintes dans votre entourage ou que vous posez des questions. Ça se passe maintenant au 05 46 50 67 68. On est avec vous sur France Bleu La Rochelle. chaque jour, on est à votre service entre 9h et 10h pour évoquer des thématiques qui nous touchent tous de près ou de loin. Aujourd'hui, on parle du trouble du spectre de l'autisme à l'occasion d'une journée mondiale de sensibilisation qui aura lieu demain, ce 2 avril. On en parle avec Fanny Gilles, qui est neuropsychologue spécialisée justement dans ce trouble du spectre de l'autisme, et Sylvana Valvé-Calvé, qui est sophrologue et qui est aussi à nos côtés. Si vous souhaitez témoigner, apporter votre histoire aussi ce matin sur France Bleu La Rochelle autour de l'autisme, vous pouvez nous appeler au 05 46 50 67 68, nous dire ce que ça impacte aussi sur le quotidien, comment est-ce que c'est pris en charge de votre côté, ou tout simplement si vous avez des questions, vous êtes aussi les bienvenus.
Voilà, quelles sont les causes, les facteurs de risque aussi de l'autisme, comment redéfinir aussi tout ça. Je vous pose la question justement, Fanny Gilles, comment est-ce qu'on peut définir les troubles du spectre de l'autisme?
Moi, je me baserai en tout cas sur trois caractéristiques. Hein. J'ai un petit peu débuté tout à l'heure, mais les difficultés au niveau des interactions, de la communication. D'autre part, donc les particularités sensorielles qui peuvent se traduire par des hypos ou des hypersensibilités, et la présence de comportements répétitifs. Donc sous toutes ces formes, TikTok, rituels, et puis une rigidité, une sensibilité en fait aux changements, aux imprévus.
On parlait de la fin des clichés aussi, et cette journée elle permet ça. Quelles sont les fausses croyances qui peut-être circulent encore sur l'autisme? Sylvana, est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être?
Oui, en fait on va retrouver principalement deux gros clichés. On va s'imaginer une personne autiste de type savant ou génie, comme on nous le présente très généralement dans les médias, dans les films, avec un QI très important, etc. Ou, à contrario, en fait, une personne autiste qui ne parle pas, donc non oralisante, qui se balance sur elle-même, etc. Mais en fait, au milieu du spectre, il y a tout un tas de personnes autres qui n'ont pas donc la déficience intellectuelle associée, qui est un trouble neurodéveloppemental, mais mis à part, qui parfois se superposent en fait aux troubles du spectre de l'autisme. Et voilà, on va imaginer souvent que les personnes sont non verbales, alors que plus de la moitié en fait peuvent communiquer.
Et c'est ça aussi qui en fait toute la difficulté aujourd'hui, de réduire finalement des cas qui peuvent être aussi isolés parfois.
Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent dans les films, et aussi le manque de formation. Du coup, certains professionnels ont aussi ces clichés-là et cette image-là. Donc, ça va être d'autant plus difficile après de diagnostiquer une personne qui a pas forcément de troubles associés marqués et visibles, en fait. Voilà.
Vous, Fanny Gilles, c'est ce que justement les personnes que vous voyez dans votre cabinet, vous voyez toutes sortes de troubles aussi. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter par rapport à ce que disait Sylvana sur ces questions-là et ces clichés aussi?
Je dirais qu'il y a aussi une sensibilisation à avoir par rapport au genre, tout simplement. C'est-à-dire que les profils masculins, les profils féminins ont quand même quelques différences qui seraient intéressantes, du coup, vraiment à prendre en compte.
Et ça peut être quoi, par exemple?
Pour simple et bonne raison, les profils, du coup, les filles, les femmes, vont avoir, par exemple, des centres d'intérêt plus socialement acceptables, par exemple. Et du coup, ça va être... ça fait moins de bruit.
Elles ont aussi des capacités sociales qui sont plus marquées, de camouflage, d'imitation depuis toute petite, ce qui fait que voilà, il y a plein de traits qui passent à la trappe, alors que finalement le ratio il tend à se baisser en fait au fil du temps et de la recherche. On voit que le ratio baisse. On était à 5 garçons pour une fille il y a quelques années. On est descendu à 3 pour un. Et ça tend encore plus à baisser. Donc,
est-ce qu'il y a une part d'hérédité aussi dans ces troubles, Fanny Gilles?
Il y a des facteurs à la fois génétiques et environnementaux. Alors, effectivement, il y a une part d'hérédité. Il n'est pas rare que quand il y a une pause de diagnostic, quand on demande à la famille est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un profil un peu similaire, on trouve souvent quelqu'un.
Avec des gens qui n'ont pas forcément été diagnostiqués aussi, peut-être dans les anciennes générations.
Tout à fait. Après, il faut savoir que les critères diagnostiques ont évolué dans le temps. C'est vrai que maintenant, on parle du spectre, ce qui n'était pas le cas avant.
Est-ce que c'est une maladie qui se soigne ou pas?
Alors non, ce n'est pas une maladie, donc c'est un trouble, un handicap ou une différence, voilà, avec ses degrés de difficulté. Mais ça se soigne pas puisque c'est pas une pathologie et en fait on est autiste et on meurt autiste.
Et elle permet ça aussi cette journée justement de redonner le bon vocabulaire sur les bonnes choses.
Oui, c'est important. C'est important, même je sais que dans la communauté de personnes autistes, certains mots sont importants, certaines formules, on dit pas un autiste tout court, on dit pas une personne avec autisme parce qu'elle porte pas ce bagage, c'est fondamentalement qui elle est dans son fonctionnement cognitif, neurologique. Donc on dit plutôt une personne autiste, voilà.
Voilà, c'est l'idée aussi ce matin, c'est de mettre les choses au clair et essayer de dépoussiérer aussi tous les clichés et tout ce qu'on peut entendre sur ces fausses croyances dont on vient de parler justement avec vous.
Parce qu'il y a une journée mondiale demain donc autour de la sensibilisation. On parle du trouble du spectre de l'autisme ce matin sur France Bleu La Rochelle avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue et Sylvana Valvé-Calbé qui est sophrologue. Et avec vous aussi, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont touchées par l'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme, vous pouvez nous en parler aussi au 05 46 50 67 68. On est ensemble jusqu'à 10h. Il est 9h27, on continue à parler d'autisme et du trouble du spectre de l'autisme ce matin sur France Bleu avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue et Sylvana Valvé-Calvé qui est sophrologue. Et puis avec vous aussi, vous pouvez apporter votre témoignage, vos questions aussi autour de tout ça au 05 46 50 67 68.
Vous, Fanny Gilles, vous accompagnez justement des personnes qui peuvent faire des bilans neuropsychologiques quand il y a une suspicion. Comment se passent en fait ces bilans? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne?
Tout à fait. Donc, les bilans neuropsychologiques, c'est une sorte de bilan cognitif, donc comme si en fait on prenait une photographie à un instant T du fonctionnement, du coup, alors là je vais dire un enfant parce que je reçois pas mal, sur ses fonctions intellectuelles, attentionnelles, la mémoire, etc. Et généralement, je les reçois parce que par exemple à l'école, il se peut qu'il y ait des difficultés et on veut mieux comprendre l'enfant.
C'est un bilan, un test qui est long en fait, puisque voilà, il y a différents aspects qui sont pris en compte.
Tout à fait.
Ça prend combien de temps?
Après, ça dépend des praticiens.
Ouais.
je propose aux enfants donc de les recevoir à deux reprises. Voilà, je vais faire vraiment le bilan en deux fois et faut bien compter une heure et demie à chaque fois, sachant que on s'adapte. Si l'enfant il a besoin de plus de temps, et ben on rajoute du temps.
Oui, vous parliez de l'enfant. Est-ce que vous pouvez aussi faire ces bilans sur des personnes adultes ou est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça?
Alors, c'est tout à fait possible. Après, ça dépend vraiment en fait des spécialités de chacun et ça dépend également en fait de la demande. Faut dire aussi, les bilans neuropsychologiques, c'est pas que pour les enfants. Parfois, on en fait aussi pour les pathologies, par exemple telles que Alzheimer, donc les bilans mémoire. Vous pouvez trouver des neuropsychologues à l'hôpital dans les services mémoire.
Alors, une fois qu'on a pris ces rendez-vous, qu'on a fait ces bilans, ensuite, en fait, il se passe quoi pour les enfants, par exemple?
Alors, tout dépend à nouveau de la demande, mais quand même, pour la majorité, il y a une demande, en fait, au préalable du médecin. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une sorte de profil cognitif pour l'aider dans sa démarche diagnostique, parce que c'est bien le médecin qui va poser un diagnostic sur un possible profil cognitif atypique. Voilà, donc l'idée du neuropsychologue, c'est d'essayer d'étayer des hypothèses diagnostiques. Une fois qu'on a un diagnostic, on a des choses à mettre en place en termes d'aménagement. Voilà, c'est bien plus facile de savoir ce qu'il faut aménager dès lors qu'on sait ce dont l'enfant souffre.
Oui, et qu'il y a eu effectivement ce bilan. Vous collaborez aussi avec les centres de ressources, le centre de ressources autisme de notre région. Qu'est-ce que ça implique, en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Le centre ressources autisme, du coup, est un centre donc qui expert déjà au niveau de la pose de diagnostic, parce qu'effectivement il y a une équipe pluridisciplinaire. Faut savoir aussi que c'est un lieu où les professionnels peuvent se former, mais aussi les parents. Et effectivement, j'ai l'occasion de collaborer, c'est-à-dire que le centre ressources autisme va essayer d'avoir des liens en fait avec les professionnels proches du territoire, de manière à orienter les familles et qu'il y ait un accompagnement ajusté.
On parlait de cette formation aussi hors antenne, Sylvana, et vous nous disiez que c'était hyper important en fait qu'il y ait des professionnels, alors à la fois dans les écoles, professionnels aussi de santé, qui soient formés en fait pour avoir le bon comportement. C'est hyper important.
Oui, tout à fait. Même les centres hospitaliers qui sont confrontés, qui reçoivent aussi du public autiste et qui sont pas forcément formés. Et on parle aujourd'hui de bonnes pratiques recommandées par la HAS parce que finalement, on a, de par l'avancée scientifique, de la recherche, beaucoup de méthodes proposées, de bonnes pratiques. Mais pour les appliquer, il faut connaître et il faut y être formé.
Et ça manque, en fait.
Ça manque beaucoup. Même, on peut voir sur le terrain, au niveau scolaire, que les AESH ne sont pas forcément formés. Ils ont parfois quelques petites formations sur le handicap de manière générale. Et en fait, elles sont en demande. C'est ça, c'est qu'on propose rien, mais elles demandent et les familles demandent. Donc, ça serait intéressant de proposer un peu plus de manière systématique ce genre de formation, oui.
Ça pourrait être ça la grosse évolution pour 2024, s'il y avait quelque chose d'idéal, en tout cas à mettre en place selon vous, Sylvana, que justement ça y ait de la formation aussi.
Oui, ça serait former un peu plus les professionnels. Ça serait peut-être développer un peu plus de fonds, parce que c'est vrai qu'on a des grosses enveloppes, donc les chiffres sont importants. Hein. L'avant-dernier plan autisme 2018-2022 représentait une enveloppe de plus de 380 millions d'euros en France, donc ce qui énorme, mais finalement quand on divise par nombre de personnes autistes, 700 000 personnes diagnostiquées, ça représente une enveloppe moyenne de 130 euros par an par personne, sachant qu'un enfant autiste, on estime un besoin à peu près pour les familles, dans l'accompagnement, la prise en charge, à peu près 2 à 3 000 euros par mois, parce que c'est un accompagnement en fait qui est pluridisciplinaire.
Donc on est loin du compte, malheureusement.
Oui.
On va continuer à en parler ce matin sur France Bleu La Rochelle du trouble du spectre de l'autisme avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue, Sylvana Valvec-Calbé qui est sophrologue, et puis avec vous aussi si vous avez des témoignages à apporter, des questions sur ce sujet, 05 46 50 67 68. On parle aujourd'hui du trouble du spectre de l'autisme avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue, Sylvana Valvec-Calbé qui est sophrologue, et puis avec vos témoignages, vos questions aussi autour de tout ça au 05 46 50 67 68.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Charente et vous vouliez témoigner en fait votre petit-fils par rapport à votre petit-fils qui a 17 ans, il me semble.
Voilà, il a été diagnostiqué il y a une dizaine d'années maintenant, parce que il était suivi par le CMP, par le CAMS à la base et ensuite le CMP. Le problème, c'est que quand on parlait d'autisme, c'était toujours nié par les professionnels, donc il n'a pas été testé tout de suite. Il n'a pas été diagnostiqué, ce qui fait que ça a beaucoup perturbé sa scolarité. Parce qu'au départ, il n'avait pas d'aide au niveau scolaire, il avait des rendez-vous trois demi-journées par semaine au CMP, donc forcément, au niveau scolarité, ça manque. Et ce qui fait que. Donc le problème, c'est que quand c'est diagnostiqué trop tard, au niveau scolaire, c'est très compliqué d'obtenir des places. Parce qu'un autiste, on ne peut pas le mettre dans n'importe. On le met en ULIS, c'est un fait. Mais pas un ULIS classique. Il y a les ULIS troubles envahissants du développement. Et les places sont chères. Il n'y en a pas beaucoup par département. Et donc. Et je voulais savoir, donc. Parce que forcément, 17 ans. On se pose des questions, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, est-ce qu'il pourra passer son permis un jour, il y a beaucoup de questions qui se posent.
Alors je ne sais pas, Fanny Gilles ou Sylvana, qui veut prendre la parole et répondre peut-être à Dominique, ou dans un premier temps, de dire ce que vous pouvez apporter, Fanny.
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de réponse claire forcément à fournir, dans le sens où ça dépend vraiment du profil. Vous pourrez en fait avoir des personnes adultes du coup avec TSA qui pourront passer leur permis et d'autres non. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des moyens de compensation. Ça dépend aussi de l'intensité en fait du trouble.
Oui, parce que c'est pas. Non, mais lui, il est au niveau scolaire accompagné. Il a de bons résultats. Il n'y a pas de souci.
Il est en quelle classe ?
Maintenant, il est en première année CAP parce que il faut y aller progressivement. On peut pas le balancer comme ça en seconde, par exemple.
Bien sûr.
Il faut toujours que ce soit progressif. Et moi, je me dis que c'est un enfant qui souffre depuis des années, quoi.
Complètement.
Est-ce que l'accompagnement est possible, notamment pour passer le permis de conduire? Après, on parle du début de scolarité, mais pareil, dans les études supérieures, est-ce qu'il y a des choses qui existent aussi pour continuer d'accompagner?
Déjà, pour le permis de conduire, me semble-t-il que... On peut faire appel à un professionnel qui évalue le fait si déjà en fait la démarche est possible. Voilà, déjà ça c'est intéressant. Et après en termes d'accompagnement, on est d'accord que c'est pas la même chose. Enfin, on ne proposera pas la même chose si en fait un diagnostic a été mis en place assez tôt, que au contraire sur le tard à l'adolescence ou début d'âge adulte.
Ça dépend des 3 degrés de sévérité. Alors les degrés de sévérité, enfin, ils sont posés plutôt sur la nécessité du besoin d'aide en fait. Donc on peut retrouver léger, modéré, sévère. Et il est vrai qu'en France, à partir d'une certaine année en fait dans le cursus scolaire, il n'y a plus d'accompagnement. Par exemple, les personnes autistes qui aimeraient et qui ont les capacités très généralement parfois d'aller à la fac, faire des études supérieures en université, il n'y a plus d'accompagnement à ce moment-là. Donc c'est souvent des personnes qui vont parfois choisir un cursus, un métier, et puis faire des études par correspondance, etc. Mais c'est vrai que c'est un âge un petit peu... C'est une tranche d'âge 17-20 ans qui est compliquée pour les familles.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est très très compliqué parce que lui, il sent qu'il est en difficulté. Il sent bien qu'il est différent. Il le sent. Sauf que il sait pas l'exprimer. Et je pense que le fait d'avoir 10 ans d'isolement dans une cour de récréation. Ça me fait pleurer.
On comprend votre émotion, Dominique.
Ça peut se traduire par de l'agressivité après. Mmh. En fait, il a peur des autres. Donc, forcément, la peur peut entraîner l'agressivité. Quand il voit arriver d'autres personnes vers lui, d'autres jeunes de son âge, il se sent pas en sécurité.
Est-ce que vous connaissez les GEM, les groupes d'entraide mutuelle qu'on peut trouver dans chaque ville?
Non, je connais pas ça.
Ça a été créé il y a quelques années. En fait, presque toutes les villes de France possèdent un GEM. Donc, c'est une association destinée souvent aux personnes... Il y a des GEM enfants, mais il y a aussi beaucoup de GEM adultes. Et à partir de 17-18 ans, ils peuvent les intégrer. Et en fait, ce sont des personnes autistes qui peuvent réaliser des activités ensemble, aussi se rencontrer, sociabiliser d'une autre manière qu'à l'école ou dans le lycée. Ça serait peut-être intéressant que vous vous renseigniez sur ce sujet-là, je pense.
Oui, tout à fait. Après, moi, c'est une question que je me suis toujours posée parce que, je trouve que ce qui est le plus ennuyeux pour lui, c'est le fait de troubles de l'attention. Beaucoup de troubles de l'attention. Très vite, il s'échappe, et il n'y a aucun traitement là-dessus. Pour les autistes.
Alors, l'autisme, c'est pas une maladie, donc ça se soigne pas avec un médicament, mais les troubles associés on peut répondre à des... Oui.
Il existe le méthylphénidate pour le trouble de l'attention.
D'accord, ok. Et donc ça, faut le demander à un neuropsy.
Non, alors les neuropsychologues sont pas médecins, mais par contre, vous pouvez faire appel à un psychiatre.
D'accord.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Dominique d'avoir témoigné ce matin.
Merci
infiniment.
Bonne journée
en Charente. Et on va continuer à parler du trouble du spectre de l'autisme sur France Bleu La Rochelle avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue, Sylvana Calvé qui est sophrologue et qui sont là aussi pour répondre à vos questions. On va avoir le témoignage de Karine dans un instant à La Rochelle pour autour de tout ça donc sur France Bleu. 9h47 et on continue à parler du trouble du spectre de l'autisme ce matin avec Fanny Gilles qui est neuropsychologue et spécialisée dans ce côté TSA et Sylvana Valvé-Calbé qui est sophrologue et puis avec vous aussi vos questions, vos témoignages au 05 46 50 67 68.
Oui, nous sommes avec Karine, vous êtes à La Rochelle. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Et merci de prendre la parole, on vous écoute.
Je vous appelle parce que mon fils a eu une recherche de maladie génétique en 2018 qui nous est revenue en 2021. En fait, il a été diagnostiqué syndrome du KVG qui englobe trouble du spectre autistique et TDAH. Et il a beaucoup de problèmes avec ses camarades de classe. Il a des interactions sociales qui ne sont pas avec les enfants de son âge. En fait, il préfère aller avec les adultes. La flexibilité aussi est compliquée pour lui. Il travaille sur ordinateur parce que il est très lent à l'écriture et il ne veut pas montrer ses capacités au niveau scolaire. Il a été suivi en hôpital psychiatrique à l'hôpital Marius Lacroix pendant 5 ans. Il était là, il est en classe du lycée à l'école des cartes de Portneuf où ils ont des AVSH pas individualisés, des AVSH pour tous les enfants en situation de handicap qui sont en classe Ulysse. Et ça lui pose beaucoup de problèmes, en fait.
On entend bien, Karine, en tout cas à travers votre témoignage, toutes les questions qu'on soulève depuis le début de cette émission. Il y a aussi tout ce qui est... en fait, il y a les comorbidités, Sylvaine Avalvé-Calbé, dont on peut parler aussi ce matin.
Oui, tout à fait. Bah, on va retrouver beaucoup de troubles associés. Donc notamment parfois des troubles aussi du comportement, on peut avoir le trouble du TDAH qui est associé aussi, des troubles 10. Donc quand on retrouve tout ça sur chez la même personne, après on parle de troubles du neurodéveloppement complexes et la prise en charge est encore plus pluridisciplinaire.
Oui, et c'est vrai qu'on entend aussi à travers les témoignages que nous avons avec Karine et puis juste avant difficulté peut-être aussi à obtenir un diagnostic, c'est le parcours du combattant, en fait on l'entend bien, et puis après même pour le suivi.
Oui, tout est compliqué. Oui. Le parcours diagnostique est très long. Il est estimé au moins à 2 ans en France pour une personne, au moins. Après, derrière, il y a les démarches à mettre en place. Donc, il faut trouver des professionnels formés. Ils sont très peu nombreux. Donc, les places sont... Voilà, il y a beaucoup d'attentes, une file d'attente. Il y a les dossiers MDPH à remplir qui sont très complexes et ça solutionne pas les choses. Parfois, c'est des personnes adultes qui peuvent pas remplir le dossier alors qu'ils ont besoin d'aide. Enfin,
c'est possible de se faire aider aussi. Il y a des aides qui existent pour remplir un dossier MDPH, par exemple.
Vous pouvez voir une assistante sociale, mais voilà. Après, c'est très long. Et puis après, c'est 4 mois pour recevoir une réponse. Et puis après, il faut attendre que l'AESH soit disponible par le rectorat. Il y en a pas trop. Elles ont un petit salaire, donc alors que c'est un métier qui est très important, qui devrait être très valorisé en France.
Il y a des bonnes pratiques, des sortes de méthodes aussi qui sont recommandées si on devait conclure par quelques petites choses à mettre en place au quotidien. Fanny Gilles, par exemple, qu'auriez-vous envie de dire ?
Alors, accompagner au niveau, avoir un regard sur les particularités sensorielles, dans le sens où aménager comme on peut. L'environnement, enfin le domicile, mettre à disposition des outils aussi qui peuvent diminuer, on va dire, plus ou moins l'impact. Mettre à disposition des moyens en fait aussi de régulation. Justement parce que la gestion émotionnelle n'est pas évidente de par en fait cette surcharge là cognitive avec les aspects, toutes ces informations qui arrivent en même temps. Et qui sont beaucoup trop intenses, nombreuses.
Et puis vous parliez des groupes aussi tout à l'heure. Vous avez parlé des groupes d'entraide.
Oui, alors si c'est plus un côté associatif, c'est pas vraiment un accompagnement, professionnel. Enfin, on va retrouver plutôt des méthodes et outils qui nous viennent pas de France, justement, la méthode ABA, Teach, des méthodes comme ça. Et on s'éloigne un petit peu de ce qu'on pensait un peu à l'époque. C'est des méthodes de psychanalyse, enfin voilà, il y a des choses qui sont peu productives, et puis après il y a des méthodes par contre complémentaires aussi.
En tout cas, merci beaucoup Karine d'avoir témoigné ce matin. Je rappelle que vous êtes à La Rochelle. Merci infiniment pour votre témoignage.
J'avais une autre question qui revient. Justement, lui, il a été diagnostiqué aussi dyspraxique, c'est pour ça qu'il travaille sur ordinateur.
Et il a un suivi. Il a un suivi avec une ergothérapeute ou une psychomotrice.
Il a une ergothérapeute qui vient à l'école. On a attendu 2 ans pour avoir une orthophoniste, parce que les listes d'attente pour les orthophonistes, c'est très long. On a attendu 2 ans pour l'orthophoniste et là on vient de la voir il n'y a pas longtemps. Il voit une orthoptiste aussi parce que le balayage des yeux chez les enfants autistes c'est récurrent en fait. Ils vont très vite par passer d'une chose à l'autre.
Et quelle était votre question, Karine? Vous aviez une question par rapport à tout ça ou...
Moi, je me pose comme la dame en fait, qui a parlé tout à l'heure. Quand il va être grand, comment ça se passe quand il va rentrer au collège? Enfin, moi, quand il va rentrer au collège, surtout.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident de répondre parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Fanny. En fait,
après à l'entrée au collège, il y a quand même plusieurs classes. En fait, il y a vraiment aussi tous les profils. Hein. Vous pouvez avoir des enfants qui, avec un accompagnement avec AESH, peuvent intégrer un cursus classique. Parfois, il y a aussi aménagement de l'emploi du temps. Parfois, ils vont être orientés en renseignement, ce qu'on disait, SECPA, et effectivement classe ULIS.
Merci infiniment.
Non, c'est pas. Et pour en revenir pour la dame, j'ai mon fils qui a demandé pour un traitement pour le TDAH. J'ai mon fils qui est sous Qualium 10 mg un matin et un le midi pour les troubles de l'attention.
Merci en tout cas Karine de nous avoir partagé votre témoignage ce matin sur France Bleu La Rochelle. Merci aussi à vous Fanny Gilles, je rappelle que vous êtes neuropsychologue spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme et vous aussi Sylvana Valvé-Calbé en tant que sophrologue. Merci à toutes les deux et aux personnes qui ont témoigné ce matin dans cette émission. Merci. Bonne journée.
Merci. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur francebleu.fr. Demain dans votre service.
Demain, pourquoi rire est-il si bon pour la santé? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque on a un fou rire, par exemple? On en parlera avec nos invités, on leur posera la question demain.
Rendez-vous entre 9h et 10h sur France Bleu La Rochelle. L'info arrive à 10h et juste après ce sera Bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes. On évoquera notamment la nuit de la géographie qui aura lieu ce vendredi à La Rochelle et qui est organisée en partie donc localement par des étudiants en géographie. Ils sont en deuxième année de licence et vont nous raconter tout ça entre 10h et 11h.